De la philosophie grecque à la personne humaine. Premier cours, la pensée occidentale. La pensée, qui caractérise notre appartenance à l'humanité, provient de l'esprit qui fait de l'homme l'être vivant le plus parfait de l'univers. L'esprit engendre la pensée, sa manifestation, puis les mentalités acquises au fil du temps dans les milieux de vie et par les cultures. Tout homme pense, réfléchit, va à la rencontre de l'autre, des autres, du monde dans lequel il vit. La pensée individuelle ou personnelle peut produire une pensée commune, d'où les mentalités dans lesquelles l'esprit baigne et se développe, d'une manière ou d'une autre, qu'il en soit conscient ou non, libre ou asservi. Au point de départ, la philosophie occidentale voit le jour en Grèce, berceau de la pensée européenne. Avant Socrate, il est bon de citer Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ, et ses deux ouvrages, la Théogonie, les travaux et les jours. Le premier tourné vers les dieux, le second vers les hommes. Regarde, ô Zeus, écoute et entends-moi. Veuille, toi, redresser les jugements conformément à la justice. Quant à moi, je voudrais dire à Persès des vérités. Quant à toi, Persès, mets-toi bien ces avis dans l'esprit. Maintenant, prête l'oreille à la justice. Oublie la violence à jamais. À qui consent à dire publiquement ce qu'il faut être juste, Zeus, au vaste regard, fait don du bonheur. Mais il commet l'irréparable, celui qui, blessant la justice, assorti délibérément d'un faux serment, un témoignage mensonger. Sa descendance sera sans éclat. Bien meilleur sera le sort des descendants de l'homme au serment irréprochable. L'homme accompli de lui-même pense à tout. Il regarde l'avenir et se demande ce qui, à terme, est préférable. Suivre les bons conseils, voilà encore qui est d'un sage. Mais celui qui ni ne réfléchit par lui-même, ni ne tient compte des avis d'autrui, celui-là est un bon à rien. Persès, fils d'un noble lignage, souviens-toi toujours de mes recommandations et travail. Où que le sort t'est placé, travailler est la meilleure chose qui soit. La richesse n'est pas de ces choses dont on s'empare. Mieux vaut la recevoir des dieux. Tel peut bien atteindre la prospérité à force de violence, tel autre la devoir à sa langue. Les dieux ont au fait d'anéantir le coupable. Du 7e siècle au 5e siècle avant Jésus-Christ, les philosophes présocratiques cherchent à comprendre ce qui est premier dans l'ordre de l'univers physique, les principes du cosmos. Pour Thalès, c'est l'eau. Pour Anaximandre, c'est l'infini. Pour Anaximène, c'est l'air. Pour Pythagore, c'est le nombre. Pour Parménide, c'est l'être. Pour Héraclite, c'est le feu. Pour Anaxagore, c'est l'esprit. Enfin, pour Empédocle, les quatre éléments constitutifs de l'univers sont l'eau, la terre, l'air, le feu. Arrêtons-nous un instant au 6e siècle avant Jésus-Christ face à l'être avec Parménide. puis face au mouvement avec Héraclite. Parménide révèle ce qui est au-delà de ce qui devient dans son poème. Il faut que tu apprennes toutes choses, et le cœur fidèle de la vérité qui s'impose, et les opinions humaines qui sont en dehors de la vraie certitude. Allons, je vais te dire, et tu vas entendre quelles sont les seules voies de recherche ouvertes à l'intelligence. Que l'être est, que le non-être n'est pas, chemin de certitude qui accompagne la vérité. Tu ne peux avoir connaissance de ce qui n'est pas. Héraclite idéalise le devenir. Rien n'est permanent sauf le changement. La guerre est le père de toute chose, et de toute chose il est le roi. Ce monde a toujours été, et il est, et il sera un feu toujours vivant, s'alimentant avec mesure et s'éteignant avec mesure. Ce qui distingue ces deux pensées, pour la première, l'être, est au-delà du devenir. Pour la seconde, l'être est dans le devenir, le mouvement incessant. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, considéré comme l'ancêtre de la philosophie, bien qu'il n'ait jamais écrit, Socrate s'opposait aux techniques oratoires utilisées par les sophistes dans l'art de parler en public et d'affronter un adversaire. En effet, les sophistes ont joué un rôle important à Athènes, car ils éduquaient les nouveaux citoyens et pour une part la jeunesse. En les écoutant, puis en les questionnant, Socrate les mettait en difficulté face à leurs contradictions, en cette période de naissance de la démocratie. Demos Kratos en grec, souveraineté du peuple. Déjà, la souveraineté du peuple était malmenée par les rhéteurs, à tel point que Socrate fut condamné à boire la ciguë, donc à mourir, car il refusait toute attitude contraire à la vérité. Ainsi naquit la philosophie, de philosophia, ami de la sagesse, par une recherche de la vérité en vue de découvrir et de comprendre le monde et l'homme lui-même, selon le fameux adage « connais-toi toi-même ». Platon, 4e siècle avant Jésus-Christ, disciple de Socrate, fut le premier philosophe fondateur d'une doctrine bâtie à partir de dialogues, dont le banquet sur l'amour, Phèdre sur les idées et sur la rhétorique, Parménide sur les formes, la République sur la politique, le tête-à-tête sur la science. Pour Platon, le sage contemple la beauté et le bien absolu, qui échappent à l'homme par leur unité et leur transcendance sur le monde sensible. Autrefois, l'âme vivait auprès des dieux dans la contemplation du beau et du bien en soi. L'homme doit donc partir à la recherche du bien, du beau et de l'un par la réminiscence. Retour au paradis perdu, telle la nostalgie d'un état antérieur. En effet, l'homme a perdu sa contemplation originelle à cause d'une chute, celle de l'âme dans un corps. Le corps devient pour Platon le tombeau de l'âme. L'âme emprisonnée dans le corps doit donc le quitter pour retrouver sa liberté, sa vraie vie spirituelle et se reposer dans les cieux des formes idéales. Pendant 20 ans, Aristote fut élève de Platon. Surnommé le liseur ou la tête de l'école, il s'est opposé à son maître, en particulier sur la théorie des formes, jusqu'à se séparer de lui. On peut avoir de l'affection pour les amis et la vérité, mais la moralité consiste à donner la préférence à la vérité, dit-il dans l'Éthique à Nicomaque. Saisir la forme, c'est entrer en contact avec toute réalité à l'aide des sens. Or, si les sens nous trompent, parce que la matière est corruptible, donc finie, il est nécessaire de quitter le monde sensible des corps pour le monde intelligible des idées, là où la forme est première, donc immortelle, immatériel. Aristote n'accepte pas l'idéalisme de Platon, qu'il considère comme une fuite vers les idées et un refuge dans le mythe de la caverne et la démonstration. À la recherche des principes, il veut découvrir par voie inductive pourquoi les formes existent. L'intelligence abstrait la réalité pour découvrir l'un dans le multiple, donc l'unité au-delà de la multiplicité. Pour Aristote, l'intelligence doit abstraire la réalité pour y revenir après l'avoir analysée, tandis que pour Platon, elle doit s'abstraire de la réalité et la quitter. La philosophie de Platon atteint son sommet dans la forme première, qui est l'abstraction de la forme, tandis que la philosophie d'Aristote dépasse la forme pour saisir l'être réel. Par exemple, à propos de la qualité pour elle-même n'existe pas. Seule telle qualité dans telle réalité existe. Aristote revient alors à Parménide, qui affirme que pour comprendre la pensée, il faut regarder l'être. Donc, seul ce qui est peut être connu. Ce qui n'est pas ne peut pas être connu, ne peut être source d'aucune recherche. Seule une philosophie de ce qui est, une philosophie de l'être, permet de comprendre ce qu'est l'esprit, donc ce qu'est l'homme. Pour regarder l'esprit, il faut comprendre ce qui détermine l'intelligence, et ce qui détermine l'intelligence, c'est l'être. Telle est la vérité. La pensée du Moyen-Âge est marqué par les théologiens qui souvent considéraient les philosophes grecs comme faisant partie du monde des païens, puisque la recherche de la vérité restait sans rapport avec la révélation, la vérité révélée par Jésus-Christ. De fait, la philosophie devint servante de la théologie par l'affirmation d'une supériorité de la sagesse chrétienne sur la sagesse humaine. Se référant à Dieu qui créa l'univers à partir de rien, ex nihilo en latin, la recherche philosophique impliquait dorénavant de faire tabula rasa, table rase du passé, c'est-à-dire de tout ce qui existe. D'où est né ce que l'on appelle la philosophie négative. La négation précède alors l'affirmation. Pour atteindre la réalité, l'esprit doit la néantiser, la réduire à néant. Le Moyen Âge semble considéré comme un long millénaire obscur, mais beaucoup d'inventions ont été élaborées pendant cette période allant du VIe au XVIe siècle, avant de voir le jour à la Renaissance. Citons par exemple les automates conçus par Léonard de Vinci. Ce génie italien, figure emblématique de la Renaissance. Parmi les théologiens influents, il faut citer Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, dont la Somme théologique, pont entre la philosophie de l'Antiquité grecque et la théologie contemporaine, fit de lui le docteur des docteurs de l'Église catholique. Au XVIIe siècle, Descartes veut sauver la philosophie en l'émancipant de la théologie et lui permettre d'acquérir son indépendance. Donc à la pensée d'être seule face à elle-même. N'est-il pas juste que chacune soit à sa place en distinguant la foi et la raison? La foi étant reçue, l'intelligence scrutant l'univers, sensible et intelligible. Pour Descartes, la pensée doit retrouver sa liberté. À l'école de la Renaissance, il s'inspire du modèle mathématique qui érigera la philosophie en une science exacte. Il veut ainsi démontrer que l'intelligence humaine peut atteindre la certitude, forme d'une nouvelle sagesse. Au même titre que la foi donne une certitude intérieure, la philosophie doit reposer sur une certitude, elle aussi, intérieure. L'intériorité naît ainsi de la pensée. S'appuyant sur le questionnement, donc impliquant le doute, Descartes remplace l'expérience, le contact existentiel avec une réalité transcendante par le cogito, le contact de l'esprit avec lui-même dans la pensée. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Descartes a puisé son idée dans la tradition en se référant à Occam, 14e siècle. Nous pouvons lire dans « Rasoir, logique, connaissance et Dieu »« Intelligo »« Moi, j'intellige, une connaissance intuitive est requise pour que la vérité contingente soit connue avec évidence. Mais il est manifeste qu'une connaissance intuitive du « moi » ne suffit pas, donc une connaissance intuitive de l'intellection est requise. » L'esprit mathématique moderne pose des hypothèses, établit des preuves en vue de l'acquisition de certitudes fondées modo geometrico, selon l'esprit cartésien. Ce n'est pas l'esprit de vérité, car il ne part pas de la réalité existante, de l'être réel, mais de la pensée, de l'être mathématique, qui n'existe que dans la raison. Notre raisonnement utilise deux voies, la méthode inductive pour la recherche d'un principe ou d'une cause en vue de découvrir l'unité dans la multiplicité et la méthode démonstrative en vue d'atteindre la certitude. L'induction mène à la découverte de la finalité, tandis que la démonstration mène à la preuve. De là, le raisonnement mathématique s'impose comme finalité sur la pensée. La logique, qui est de l'ordre de la forme, s'impose comme fin, mais une fin en soi. La relation s'installe alors comme moteur de la vie de l'intelligence. Le formalisme déjà présent chez Platon aboutit à la primauté de la critique sur l'analyse, de la critique a priori sur la critique a posteriori. Dans son fonctionnement, l'intelligence analyse, puis porte un jugement, pour ensuite avoir sur elle-même un regard critique. Le risque courant est de refuser l'analyse, du moins de ne pas l'admettre comme un bien pour la vie de l'intelligence. En sens inverse, de l'être au non-être, de l'affirmation à la négation, l'intelligence se replie sur elle-même, critique en se détournant de la réalité qu'elle enferme dans la pensée. La critique s'impose alors sur l'analyse en prenant sa place. Avec Descartes, le « je pense donc je suis » se substitue au « connais-toi toi-même » de Socrate. La pensée précède l'exister. L'intelligence soumet le réel. Comme tous les hommes peuvent affirmer « je pense », la pensée, en tant qu'elle est universelle, devient le fondement de la philosophie. La saisie immédiate de la réalité, que l'on nomme jugement d'existence, disparaît. L'intelligence ne reçoit plus la réalité telle qu'elle est, mais elle s'arrête à ce qu'elle perçoit de la réalité. D'où le jugement porté sur quelque chose ou quelqu'un est fonction non plus de ce qu'il est, de son être, mais de la perception ou de la représentation que l'on s'en fait, tant au plan intellectuel que scientifique, au sens de la science moderne. Le raisonnement donne alors sens à la cohérence logique des idées. Pour Descartes, la pensée précède l'exister, puisque tout exister est inhérent dans une réalité matérielle et que toute pensée se détache de la matière, donc de la finitude. Les idées innées viennent de Dieu, l'être infini vers lequel tend la science mathématique. N'oublions pas que Descartes croit en Dieu. Aussi, la pensée doit se détacher du sensible, des choses matérielles et périssables. Parce que nos sens nous trompent, pour tendre vers cet infini divin, mesure du réel fini. Par conséquent, seul ce qui peut être mesuré est objectif, et ce qui n'est pas mesurable n'est pas objectif, mais subjectif. Donc, n'appartient pas au réel. Descartes dit que la qualité est subjective, que le sensible propre est subjectif, parce qu'il ne l'a peut-être pas saisi. La seule objectivité est le mesurable, parce que le mesurable est objectif. Une fois que l'on a compris cela, on comprend les limites de la pensée cartésienne. Descartes confond la réalité et la perception de la réalité, comme on peut confondre l'amour et le sentiment, la vérité et la sincérité. Pour Descartes, le réel est absorbé dans la pensée, dans l'idée. Cela revient à préciser que la philosophie n'est jamais de l'ordre du possible, comme le sont les mathématiques, mais de l'ordre de ce qui est, de la réalité en tant qu'elle est et non en tant qu'elle pourrait être. Le possible n'existe pas, seul ce qui est existe. Ce que l'intelligence peut saisir d'une réalité, c'est-à-dire son intelligibilité, ce n'est pas la réalité, mais une part de la réalité. La réalité saisie dans la pensée n'est pas la réalité elle-même. puisqu'elle est dans la pensée. Quand vous entrez au contact physique avec telle personne, mais vous ne rencontrez pas d'abord telle pensée. Le réel s'impose en premier lieu avant toute pensée. Depuis Descartes, on assiste au pouvoir déterminant de la pensée sur l'être, donc d'un être de raison sur l'être réel, écartant de fait le travail qualitatif et foncier de l'intelligence, laissant libre cours au raisonnement par l'imagination, donc à la logique formelle comme fin, c'est-à-dire à la relation sans fondement réel. La prééminence de la forme dans la cohérence des idées se substitue donc à la recherche de la vérité tournée vers la finalité. Réagissant contre Descartes, Kant, 18e siècle, s'appuie sur la physique. En effet, par la science physique, il retrouve une part du réalisme que Descartes a perdu avec la science mathématique. Pour sauver la subjectivité cartésienne, Kant parlera de la subjectivité transcendantale. Ce qui est immanent est ce qui est en soi. Ce qui est transcendant est ce qui est autre que soi. De la philosophie de Kant se dégage une morale du devoir, cette morale du devoir que tous ont connue et parfois subie dans l'éducation. Fais ceci, ne fais pas cela, il faut, il ne faut pas. Voici un extrait des fondements de la métaphysique des mœurs de Kant. Il faut donc développer le concept d'une volonté souverainement estimable en elle-même, d'une volonté bonne indépendamment de toute intention ultérieure, telle qu'il est inhérent déjà à l'intelligence naturelle, saine, objet non pas tant d'un enseignement que d'une simple explication indispensable. Ce concept, qui tient toujours la plus haute place dans l'appréciation de la valeur complète de nos actions et qui constitue la condition de tout le reste. Pour cela, nous allons examiner le concept du devoir qui contient celui d'une bonne volonté. Chez Kant, tout est dicté par la raison commune, qui est de l'ordre de l'universel, de la pensée universelle. Par la subjectivité transcendantale, il veut atteindre l'absolu, non en Dieu, qui est l'idée cartésienne de Dieu, mais dans la pensée elle-même, la pensée commune, selon un impératif catégorique. Agis selon des maximes qui puissent se prendre en même temps elles-mêmes pour objet comme loi universelle de la nature. La pensée universelle s'impose donc comme un impératif. Kant revient au fameux cogito de Descartes tout en s'opposant à lui. Admiratif de Descartes, le grand philosophe allemand Hegel, 19e siècle, se pose la question « Comment puis-je affirmer que mon « je pense » est la vérité ?» Descartes dit dans sa cinquième méditation métaphysique « Dieu est le créateur de ma pensée, le créateur de la réalité qui est en dehors de moi. » Pour Descartes, Dieu infini s'impose comme le garant de la certitude. Hegel lui répond « À chaque moment de ma dialectique, je repose l'acte héroïque fondateur du héros cartésien. Descartes est ainsi le héros de la pensée. Pour Hegel, « je pense » est identique à l'être, et l'être est un moment dans la pensée. L'être n'est plus l'existé fondamental d'une réalité pour elle-même, mais devient l'identité de la conscience dans la pensée. Qu'entend-on par identité? L'identité est la présence à soi-même de sa propre pensée. Tout ce qui n'est pas mon « je pense » n'est pas moi. L'autre étant ce qui n'est pas ma pensée, la pensée de l'autre est alors considérée comme un moment dialectique dans la pensée, et la relation avec les autres comme une succession de moments dialectiques. Le moment qui est dans le temps, donc dans le mouvement, conduit Hegel à confondre être et vie, à enfermer l'être dans la vie, puis à ne regarder la pensée que dans sa relation à la vie, dans le mouvement de la vie. Que pourrait lui dire Aristote? L'être n'est-il pas au-delà du mouvement? N'y a-t-il pas une confusion entre être et nature, entre ce qui est et ce qui devient? En Dieu seul, être et vie ne font qu'un. D'où la pensée de l'homme rejoint chez Hegel la pensée de Dieu, un absolu divinisant l'homme par la pensée absolue, la pensée de la pensée. Dans la philosophie hegélienne, la vie absorbe l'être. L'esprit précède l'être et se substitue à lui. Comme dans la vie végétative, l'homme absorbe, puis assimile pour permettre au corps de se nourrir. Deux domaines permettent d'identifier cette confusion entre l'être et la vie. La nutrition, où j'absorbe, j'assimile et je me nourris, et l'art, où j'ai une idée, une inspiration, et je transforme une matière en vue de réaliser une œuvre, mon œuvre. Entre vie et être, chez Hegel, l'immanence triomphe de la transcendance. L'esclave a pris la place du maître. Ce mouvement interne conduit Hegel à la fameuse trilogie, thèse, antithèse, synthèse, qui est une caricature du mouvement dialectique. Dans la pensée dialectique, l'affirmation implique la négation, d'où l'être implique le non-être, dans un mouvement de la pensée sur elle-même. Pour être précis dans cette trilogie, la thèse, c'est l'identité. L'antithèse, c'est la différence. Et la synthèse, c'est l'identité de la différence. Certes, cette précision n'est pas facile à comprendre. La pensée dialectique commence par l'identité. Je suis moi-même par ma pensée. L'identité est la manifestation de moi-même. Je me dédouble pour mieux me voir. L'identité repose sur une division qui n'est pas réelle, mais de raison, car elle n'est que dans la pensée sans être dans la réalité. Hegel va plus loin encore en disant que ce qui garantit la pensée, c'est qu'elle est un absolu. Il affirme que la seule solution pour que la pensée soit objective, c'est qu'elle soit absolue. Or, en Dieu seul, la pensée est absolue. D'où Hegel pose le problème de l'homme-Dieu. C'est la fuite en avant, l'homme se prend pour Dieu. Avec le développement accéléré des sciences et des techniques, le positivisme a accompagné les grandes révolutions industrielles à partir du XIXe siècle. Pour Auguste Comte, son fondateur, avant l'avènement de la science, l'homme avait besoin d'une philosophie pour l'aider dans la croissance de sa vie. Grâce à la science moderne, l'homme quitte l'état d'enfance dans lequel il vivait auparavant pour entrer dans l'âge adulte. La science lui permet d'atteindre sa maturité. Cette conception du rapport entre science et philosophie semble méconnaître, pour l'avoir étouffée, cette science fondamentale qu'est la philosophie de l'être, la métaphysique. Mais l'enjeu est là. Plus la science se développe, plus une véritable philosophie de l'être semble plus que jamais nécessaire. La science philosophique n'est pas une science physique, mathématique ou psychosociologique, mais elle est la science des sciences. En tant que science du pourquoi, elle se situe en amont des sciences du comment. Que dit la science moderne de l'âme, de l'amour, de la mort? Elle ne peut pas en parler, car ils ne sont pas mesurables. Seule une philosophie fondée sur l'être peut en parler. Au XIXe siècle, dans l'histoire du capitalisme industriel, les idéologies politiques entrent dans la lutte au sujet de la rupture entre capital et travail. Marx, suivi de Lénine, érige une philosophie, le matérialisme dialectique, issu de la dialectique hégélienne. Pour Marx et Lénine, la matière est considérée comme principe et cause d'être. Lénine a commenté la métaphysique d'Aristote en enfermant l'être dans le devenir, dont le principe est la matière. Il fait la confusion entre ce qui est mu et ce qui est en mouvement et ce qui est, ce qui est au-delà du mouvement. Car pour Lénine, s'inspirant d'Averroès, philosophe musulman du Xe siècle, ce qui est mu implique un principe propre, la matière. Si la matière devient un principe de ce qui est, dans ce qui est mu, dans ce qui devient, toute réalité existante, y compris l'homme, est matérielle, d'où la dialectique matérialiste. Si la matière est principe constitutif de l'être, on ne peut plus parler de la partie supérieure de l'esprit, ni de Dieu, parce qu'ils ne sont pas matière. Il est donc impossible qu'existe l'âme. Pour Marx, en transformant la matière, l'homme transforme sa propre nature. D'où le stakhanovisme, déifier le culte du travailleur à l'apogée du marxisme-léninisme. Pour terminer cette étude succincte de la pensée occidentale, il faut signaler l'influence de Nietzsche, XIXe siècle, en particulier sur la jeunesse. Par le culte du drame artistique, quand il s'écrit en mourant « art, art, art ». Et le culte du surhomme, « si Dieu est créateur, or je suis créateur, donc Dieu n'existe pas ». Nietzsche s'est posé en rival de Dieu, en faisant la confusion entre création et créativité. D'où préalablement entre l'être réel et l'être de raison. Dieu crée des êtres réels. L'homme crée des êtres de raison. L'homme crée à partir d'une réalité existante qu'il transforme. Comprendre cette distinction rend modeste et non rival. Dieu n'est pas rival, puisqu'il crée des êtres réels, substantiels, tandis que l'homme ne peut que transformer une matière créée, c'est-à-dire partir d'une réalité matérielle existante pour créer quelque chose de nouveau. De ce survol de l'évolution de la pensée, deux grandes perspectives se dégagent. L'une regarde en premier lieu la vie de l'intelligence, donc le vécu, l'immanence dans l'expérience interne. Elle repose sur l'idée, sur l'intentionnalité, et se développe selon une logique affective, donc subjective. Il s'agit d'une perspective idéaliste faisant référence aux idéologies. L'autre perspective débute dans l'expérience externe, la réalité regardée pour elle-même. Elle affirme que l'idée est relative à son objet, la réalité existante, donc en premier lieu l'être reçu dans l'intelligence par le jugement d'existence, ceci est, ceci existe. C'est la perspective réaliste. Tout homme peut et doit faire le choix entre ces deux démarches fondamentales de la pensée pour la vie de l'intelligence, donc pour la vie elle-même et dans sa relation avec l'être. L'une est fondée sur la pensée qui mesure le réel et l'autre sur le réel qui mesure la pensée. Quand vous regardez une rose écarlate, elle ne rougit pas parce que vous la connaissez. Mais c'est vous qui êtes changé parce que vous portez en vous la connaissance de cette rose. Notre connaissance ne modifie pas le réel, mais nous sommes modifiés par le réel. Cela montre le primat de la réalité par rapport à la connaissance. Il s'agit là de deux niveaux de connaissance importants à saisir puis à distinguer. En logique, la pensée se structure grâce à l'universel, c'est-à-dire aux concepts, tels que homme, animal, et de là au plan des valeurs, tels que le bien ou le mal, tandis que la pensée philosophique doit être radicalement tournée vers le réel, en prenant son fondement dans l'être, à partir du jugement d'existence, ceci est, ceci existe. La logique ne quitte pas l'universel. Elle est bonne et nécessaire en tant que moyen ou procédé pour l'intelligence tournée vers sa finalité, vers l'être de telle réalité, de telle personne. Ces deux modes de pensée se caractérisent par leurs points de départ respectifs, l'un dans la réalité et l'autre dans la pensée, l'un réaliste, l'autre idéaliste. L'idéalisme tend à favoriser l'exaltation de l'intelligence, l'amour-propre et l'ego, au détriment du réalisme qui implique le respect de l'autre quel qu'il soit, telle réalité, la nature et au sommet, la personne. L'autre, c'est l'enfer, s'est exclamé Sartre. Car quand l'autre n'est plus respecté, puis aimé pour lui-même, quand la nature n'est plus reçue et considérée pour elle-même, ils deviennent des obstacles entraînant luttes et conflits de toutes sortes, asservissement de la nature et esclavage de l'homme. Le réalisme réclame donc cette humilité de l'intelligence qui lui permet de se tourner vers sa fin propre, le dépassement de la forme par l'être, puis la découverte de la finalité.